RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story, c'est l'heure de discuter, c'est l'heure de débattre, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi. Un petit salut à mon camarade Olivier Truchot qui
toujours prend en vacances.
Quelques jours de vacances en famille, en Bourgogne, tranquillement, si vous voyez passer quelqu'un sur une tondeuse, parce qu'il ne sait pas s'arrêter avec sa tondeuse, avec son fils sur les genoux.
Il ne conduit pas des bus dans Lyon, lui ?
Non. Il faudrait remonter peut-être l'arbre généalogique.
Oui, je pense, moi, quand même.
Pour savoir. Mais c'est Olivier qui tond sa pelouse, qui n'a pas trouvé le frein encore. Alors, qui est là aujourd'hui ? Bruno Poncet, vous venez de l'entendre, cheminot et syndicaliste. Bonjour, mon cher Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes avec Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie. Bonjour, Barbara.
Bonjour à tous. Je voulais dire un grand bonjour à Evelyne, qui est une fan des GG. Voilà. Qui était avec nous encore hier au sitting pour. Appelé à la libération des otages donc, qui sont détenus par le Hamas. Voilà, donc j'en profite pour lui passer un coucou.
Et nous sommes avec Maître Charles Consigny, avocat. Bonjour Charles.
Bonjour à tous. Moi, je ne salue personne en particulier.
Mais ça nous étonne.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, de beaucoup de choses qui font notre pays, qui font la société. Est-ce que voter animaliste aux prochaines élections européennes, c'est utile ou inutile? Ce sera notre GG 7 et match, 11h-20. Le brancardier roué de coups en Vendée. Est-ce qu'il faut mettre maintenant des policiers dans les services des urgences? La taxe lapin de 5 euros si vous n'allez pas à votre rendez-vous avec le médecin, bonne idée ou pas? On va parler bien sûr de Viry Châtillon. Il paraît que c'était le scénario d'un crime d'honneur, ce qui a coûté la vie à Chemsedine. On voulait se venger parce qu'il discutait avec une des sœurs. Il n'avait pas à le faire. Il a bravé l'interdit, Chemsedine. Ça sera dans un instant qu'on en parlera avec vous au 32-16. Mais on va d'abord écouter ce que disait Mila, l'adolescente, vous savez, qui avait été poursuivie, harcelée, menacée de mort. Elle a encore des gardes du corps. Hein. Elle vient de quitter la rue des studios d'RMC de BFM TV il y a quelques instants.
Elle en a beaucoup. Hein.
Oui, parce qu'elle est toujours sous pression. Elle est toujours menacée, Mila. Et écoutez ce qu'elle disait il y a quelques instants avec Apolline de Malherbe.
RMC, les grandes gueules.
Je n'ose imaginer la pression que doivent subir ces jeunes filles. On attend d'elles qu'elles conviennent à ces standards-là qui devraient même pas exister. On parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui? Pour moi, la laïcité, elle est morte. C'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un briefing. C'est un briefing qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire, je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, j'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé, j'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui j'ai la haine, aujourd'hui j'ai la rage.
Elle a la haine, elle a la rage, Mila, et elle le dit, on n'a pas été suffisamment soutenus. Elle en s'en prend en politique un petit peu plus loin dans son interview avec Apolline de Malherbe, en disant on n'a pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Elle est venue, Mila, s'exprimer publiquement dans le contexte de la mort de Chemsedine, de ce qui est arrivé aussi à Samara. La toile de fond de ces deux histoires, c'est la religion, c'est l'intolérance, c'est l'obscurantisme. En ce qui concerne Chemsedine, 4 jeunes gens ont été mis en examen pour assassinat dans la nuit de dimanche à lundi, après la mort du gamin de 15 ans. Pardon, je dis gamin, mais parce que quand on a 15 ans, on est un ado, on est un gamin avec la vie qui s'ouvre devant vous. Quel a été le tort de Chemsedine si on se fie aux deux frères qui ont parlé notamment aux enquêteurs? C'est parce qu'il avait eu le tort de discuter avec leur sœur sur des sujets relatifs à la sexualité, et ils avaient craint pour leur honneur, et donc ils lui ont véritablement tendu un guet-apens à Chemsedine. Et donc Mila, ce matin, dans le contexte Samara et Chemsedine, elle est venue crier sa colère, sa rage, sa haine. Elle-même, depuis 2020, elle s'est retrouvée menacée de tous les maux, d'être lapidée, d'être tuée, d'être décapitée. Elle a dû être déscolarisée, elle est sous protection. Et elle le dit aujourd'hui, la laïcité, elle est morte parce qu'on n'ose pas affronter la vérité. Est-ce qu'elle a raison, Mila? 32-16 pour en parler avec les GG. Barbara, on écoutait Mila ensemble il y a quelques minutes.
Ouais, écoutez, si nos dirigeants de toutes obédiences avaient la moitié du courage de Mila, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. De Mila et de bien d'autres, bien sûr, mais au moins Mila, pour une jeune fille, parce que quand lorsqu'elle a été victime de ces harcèlements, elle était vraiment jeune, elle était au lycée, elle avait 16 ans. Je peux vous dire, avoir ce courage-là à 16 ans, quand on a des hommes et des femmes politiques de 50 balais qui se font dans leurs pantalons à la moindre phrase et qui, 5 minutes après, viennent vous dire « L'école est un sanctuaire, l'hôpital est un sanctuaire, nous ne laisserons rien passer. » Alors, je vais vous dire, ça fait 20 ans qu'on entend ça, c'est de la flûte, et je suis bien contente que quelqu'un vienne le dire. Et oui, il y a un moment, ras-le-bol. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre qu'elle est la haine. Elle n'a pas la haine contre une population générale, elle a la haine contre les gens qui la menacent, elle a la haine contre les islamistes, elle a la haine contre les gens qui veulent empêcher les autres de vivre librement, qui sont une minorité tyrannique, et donc elle a raison d'employer ces termes, parce que je vais vous dire, quand vous parlez, on va pas se mentir, hein, quand vous parlez à votre entourage, etc., mais les gens sont très en colère, les gens en ont ras-le-bol, et ils en ont surtout ras-le-bol de quoi ? De la lâcheté de ceux qui nous dirigent. Moi, j'ai pas, à la limite, moi, j'ai plus la rage contre ceux qui nous dirigent depuis 25 ans, qui regardent les trains passer et qui nous jouent de la flûte toutes les 5 minutes. Les autres, c'est rien du tout. C'est une minorité. Si on avait voulu, on aurait pu les mettre hors d'état de nuire. Seulement, on ne veut pas. Les frères musulmans, ça fait 20 ans qu'on aurait dû interdire cette organisation. Aujourd'hui, elle a gangréné des institutions, elle a gangréné des universités. Ils sont dans
des quartiers aussi.
Et ils sont dans des associations d'étudiants. Je vais vous dire, quand à Sciences Po, vous faites le hijab day, si là, vous comprenez pas que c'est les frères musulmans qui sont à la manœuvre, vous comprenez rien, et tout ça avec des directeurs progressistes, machin, et qui comprennent même pas le danger qu'ils hébergent.
Est-ce que c'est lié à Samsara, à Samara? Est-ce que c'est lié
que c'est
à Chemsedi?
Mais regardez.
On est aussi dans
qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Samara pendant une journée et demie. Elle raconte ce qu'a vécu sa fille, et puis rapidement, hop, on lui fait lire un petit message chez Cyril Hanouna. Cette femme qui s'exprime très librement, qui n'a jamais rien lu quand elle s'exprime, là tout d'un coup, elle lit un message tout près.
Qui s'habille à l'européenne et qui est harcelée, c'est ça.
On a dû lui dire, écoute,
ensuite,
ma cocotte,
sa fille devient pieuse 24
heures
après.
Ma cocotte, si tu veux vivre tranquille et si tu veux pas de problème, tu vas lire le petit message qu'on t'a concocté, qui dit « Ma fille est pieuse, elle fait ramadan et elle prie 5 fois par jour. Elle doit donner des gages. » Voilà, mais ça suffit. On est dans un pays démocratique où personne n'a donné de gages à des autorités religieuses. En 1789, on a foutu tout ça par terre. Ça a été dur. Tout au long du 19e siècle, il y en a qui ont essayé de revenir avec les délits de blasphème, etc. La France, elle a tenu bon. Donc, on va pas aujourd'hui se laisser impressionner par une minorité. Donc, Mila, c'est une fille courageuse. Des filles comme elle, il y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous dire, souvent, celles qui sont les plus courageuses, c'est des filles. Voilà. Donc, c'est des femmes. Donc, bravo à Mila.
Bruno, pensez?
Moi, ce qui m'afflige, déjà, c'est la vie que mène cette jeune femme. C'est-à-dire que depuis tant d'années, quand tout à l'heure avec Charles, on l'a croisée, on la voit avec des gardes du corps. Tu te dis, mais c'est pas la vie d'une gamine de 20 ans, en fait. Et tout ça, parce que sur les réseaux, un jour, elle a fait, exprimée librement. Bon, après, ce qu'elle a dit, c'est engagé avec elle, mais après, la pauvre, elle a pris un torrent derrière. C'est une catastrophe. Évidemment, on peut faire un lien avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et moi, quand j'entends.
Pour rappeler que Mila, ça date de 2020, hein, elle s'était, comme on dit aujourd'hui, tu sais, embrouillée sur les réseaux sociaux avec un jeune homme qui l'a draguée, à qui elle avait dit, mais toi et ton prophète, je m'en fous, foutez-moi la paix. Voilà, parce qu'elle était harcelée et autres, quoi, bien sûr.
Ah non, mais c'est ça. Et après, derrière, elle a vécu un enfer. Et je pense j'ai l'impression qu'elle continue à le vivre. Et d'ailleurs, la pauvre, elle n'en est pas sortie. Parce que quand on l'entend s'exprimer, tu sens que c'est quelqu'un quand même qui est toujours blessé et qui vit une vie quand même qui est très difficile. Après, c'est vrai que tu peux faire le lien avec ce que tu vois en ce moment. C'est-à-dire que t'as un vrai sujet où aujourd'hui, sous couvert de religion, parce que je pense pas qu'ils soient religieux. Moi, j'ai des amis qui sont très pieux, ils se comporteront jamais comme ces gens font et disent qu'ils font ça sur le couvert de religion, font des choses de violence. Mais c'est surtout, moi, je pense surtout, on est encore dans une espèce d'oppression de la femme, en fait. C'est-à-dire que là, ta sœur, elle peut pas parler parce que ta sœur, elle doit dire que ce que tu dois dire. Ta sœur, elle ne doit s'habiller que comme toi, tu veux qu'elle s'habille.
Là, tu parles de Chemsedine, voilà. Ce qui est arrivé au gamin de 15 ans.
Et donc, tu peux faire le lien avec ce que Mila fait, parce que Mila, comme c'était une femme qui s'exprimait sur les réseaux et que c'était une adolescente, on l'a pourrie. Alors qu'en fait, si ça avait été un garçon, les mecs seraient embrouillés comme ça serait arrêté là. Hein. Et là, c'est vraiment, là, je pense réellement qu'on est dans une espèce d'oppression de la femme. Et le patriarcat, c'est un mot qui est employé souvent à mauvais escient, mais là, on est en plein dedans. Est-ce que cette gamine a vécu, maintenant qu'elle est encore dans le coma, je crois, mais est-ce que cette gamine a vécu, c'est exactement ça?
Samara, elle est sortie du coma. Elle
est sortie du coma, mais c'est le petit qui est mort. C'est qu'en fait, voilà, c'est sous couvert de religion, on sort n'importe quoi, en fait. Et moi, ça me rend fou parce que, évidemment, entre le moment où les gens font pas l'amalgame, ceux qui réfléchissent font pas l'amalgame.
Donc, l'obscurantisme, il est là, c'est considéré aussi, c'est menacé Mila de mort, c'est considéré que c'est toi qui dois décider avec qui ta sœur parle, avec de quoi elle a le droit de parler.
Le nombre de gamines dans les quartiers, moi je jouais dans mon quartier avant quand j'habitais dans une cité, les gamines elles sortent en survêtement. Et moi, je l'ai croisé plus tard dans la journée. Elles étaient plus en survêtement. Mais les gamines sortent en survêtement pour avoir la paix, en fait. Pour pas que les copains de leur frère ou un tel lui disent, ou les mecs qui faisaient le gay à l'entrée, ils disent, ah, vas-y, t'habilles comme une pute. Et après, aller voir le frère pour dire, ah, ta sœur s'habille comme une pute, tu vois. Et de ce qui s'est passé avec la petite, avec
et d'ailleurs, le petit, qui Mila a eu raison de souligner qu'elle n'a jamais été soutenue par les pseudo-féministes. Ouais. D'accord? Elle a même été plutôt conspuée par elle, voire jetée en pâture par elle. Et qu'effectivement, ces néo-féministes, on les a jamais vues venir aider les filles dans les quartiers victimes du patriarcat islamiste.
Il y avait une association de Fadela Mara, ni pute ni
soumise. Et ni pute ni soumise. Qu'est-ce qu'elle s'est pris, Fadela Mara, dans la tête, que c'était une archie, que c'était une vendue, que c'était une traîtresse. Là aussi, des femmes qui sont des courageuses. Il y avait Siem Hapchi aussi à l'époque, je m'en rappelle bien. Donc, ces femmes-là, moi, le patriarcat, il existe sous toutes ses coutures. Hein. Il n'y a pas que le patriarcat islamiste, bien sûr. Le patriarcat, les femmes en sont victimes aussi en France. Mais on a plus d'armes pour lutter contre le patriarcat aujourd'hui dans l'entreprise, dans le monde des médias, bon, bref, en général. Mais le patriarcat islamiste, qui est celui qui opprime aujourd'hui des jeunes filles, ah là, ça n'intéresse pas nos néo-féministes. Ah là, non, elle voit pas le problème. Madame Marie Toussaint, elle voit pas le problème, la représentante écolo. Si Madame Manon Aubry, elle voit pas le problème.
Elle veut de la douceur.
Oui, de la douceur, voilà.
Elle a raison, Mila. La laïcité, elle est morte. On n'a pas su prendre la mesure de ce qui se passait depuis toutes ces années. Charles Consigny.
Non, moi, je pense que rien n'est jamais terminé. Je pense que...
On a de quoi être inquiet, en tout cas, en ce moment.
Oui, mais ce qui m'inquiète plus, c'est une espèce de contre-culture qui se répand sur le territoire français. C'est quand même étonnant de voir des gens, je pense que les suspects du meurtre
à Viry-Châtillon,
ont la nationalité française.
Bien sûr.
Et néanmoins, ces jeunes-là considèrent qu'ils peuvent faire une expédition punitive contre un jeune parce qu'il a parlé à leur
père. Tu veux les trois lignes du procureur? Craignant pour sa réputation et celle de leur famille, ils avaient enjoint plusieurs garçons de ne plus entrer en contact avec elle. Ils avaient ensuite appris que la victime, donc Hichem Seydine, qui a été tabassé à mort, se vantait de pouvoir librement parler avec leur sœur. Voilà. Donc, oui, mais c'est pour donc ça qu'ils ont décidé de passer à l'action derrière.
Il y a une frère qui avait des beaux pédigrés déjà.
Il y a une espèce d'importation de codes culturels de pays du tiers-monde sur le territoire français. C'est quand même ça qui se passe. Et c'est terrible s'agissant de jeunes de la nouvelle génération qui devraient normalement ne pas raisonner comme au Moyen-Âge. Voilà. Donc, moi, c'est plus ça qui, enfin, c'est surtout ça qui m'inquiète, c'est de voir que il y a une partie des jeunes français, parce que c'est quand même souvent des jeunes en plus qui sont à la fois ceux qui attaquent Mia, ceux qui ont cassé la gueule et tué ce pauvre gamin. C'est souvent des jeunes. Voir ces jeunes qui se sont radicalisés,
ceux qui s'en sont pris à Samara aussi,
dans une culture moyenâgeuse. Je pense que c'est ça qui doit nous interroger. Je crois en effet que pour l'instant, là où Mia a raison. Mais
si tu veux, c'est plus que nous interroger. Ça fait un moment qu'on le voit, ce que dit Barbara. Ça fait 20 ans que le constat il est fait. Là donc c'est plus qu'interroger. C'est maintenant, c'est comment on y répond.
Ouais. Là où Mia a raison.
Pour protéger Samara, pour protéger Sem Sedine, pour protéger les enseignants, pour protéger tous ceux qui y sont confrontés aujourd'hui. Pour qu'ils leur montrent que vous êtes libre de discuter avec qui vous voulez à 15 ans, de vous habiller comme vous voulez, avoir de supporter le poids d'une tradition, d'une religion.
Pour ça, le plus efficace, ce sera quand même de faire en sorte que les jeunes ne rentrent pas dans ces délires moyenâgeux. C'est quand même ça. Protéger, c'est très bien, mais tu vois bien que Mia, aujourd'hui, elle est protégée, sauf le résultat des courses. Elle arrive ici avec 5 gardes du corps.
C'est fou.
Donc, on peut mettre des gardes du corps à tout le monde aussi, mais on n'aura pas beaucoup fait avancer le public. Moi, la question, c'est pourquoi est-ce que des gamins de 13 ans, 14, 15 ans se comportent comme des talibans? C'est ça la question. Alors qu'ils sont nés en France et qu'ils ont soi-disant pu bénéficier de l'école française, etc. Donc je trouve que c'est là-dessus qu'il faut accélérer lourdement.
J'étais au procès.
Alors t'as la réponse toi ou pas?
Non, j'étais au procès d'attentat pour comprendre pourquoi des gamins qui étaient nés en France, qui avaient étudié en France, qui avaient même eu des boulots. Il y en a un qui était conducteur de bus et RATP quand même, faut pas vous lier. Et en fait, me demander pourquoi ça vrillait à un moment donné. Et une des raisons que t'entendais vraiment et qui était dite aussi par des policiers, c'est à un moment donné cet abandon de certains territoires et par la police et par les services publics qui faisait qu'à un moment donné, les gamins, ils avaient deux choix. La CAM, donc les dealers, la deal, et ou alors les barbus. Et souvent, les gamins, à un moment donné, vrillaient. Et puis après, t'as cette espèce, comme dit Charles, cette espèce de code d'honneur importé peut-être d'Arabie Saoudite ou je sais pas d'où, où il faut être plus blanc que blanc. Donc dans ce cas-là, après, à un moment donné, tu pètes un câble et tu deviens cette espèce de truc que ta sœur, elle a pas le droit de parler. Je te dis, les gamines, elles sortent en survêt, elles ont même pas le droit de s'habiller comme elles veulent, en fait. Elles ont 17 ans, elles peuvent pas parler avec un garçon. tu te rends compte que, enfin, moi j'ai connu ça quand j'étais gamin, parce que j'étais dans des pensions catholiques, c'était le même cas, mais dans une autre religion où fallait pas parler avec les filles, enfin t'avais pas le droit de coucher avec les filles.
Mais t'étais en pension, c'était dans un lieu clos et fermé.
Oui, mais
ça n'a rien à voir avec.
Mais quand j'allais chez les
avec la vie tous les jours, la vie quotidienne dans les quartiers
barbares. Tu risquais pas le crime d'honneur parce que tu parlais pas à une gamine catholique dans un pensionnat, voilà.
Mais bon, on va continuer d'en parler. Le débat est lancé. Vous avez entendu ce qu'a dit Mia aujourd'hui. La laïcité, elle est morte. Elle est morte et on ne peut plus vivre comme on le voudrait. La preuve, ce qui est arrivé à Chemseddine, la preuve, ce qui est arrivé à Samara. 32-16 pour venir en parler avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui l'avocat Charles Consigny, avec Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, avec Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie. La situation est grave. C'est ce que Mila a dit ce matin. Mila, la jeune fille harcelée, menacée de mort parce qu'elle s'était embrouillée sur les réseaux sociaux à propos du sexe, à propos de la religion. Elle s'identifie à ce qui est arrivé malheureusement à Samara. La mort de Chemseddine, parce qu'elle dit, nous sommes aveuglés, nous ne voulons pas voir que, un, la laïcité est morte, et deux, la France est en danger. Écoutez-la.
La détestation de la France, c'est une tendance. La montée de l'islam, enfin, quand on voit toutes ces gamines qui portent un hijab, une abaya un jour et un crop top l'autre, enfin, c'est devenu aussi un effet de mode, je veux dire, comme les transitions de genre et compagnie.
Alors voilà ce qu'elle dit aujourd'hui, Mila. C'est-à-dire qu'on a, il y a plus de repères et on n'arrive pas, à tenir bon. Exactement. On n'arrive pas à tenir bon sur les fondamentaux de notre pays. D'où cette expression qui là en ce moment est en train de résonner, de dire la laïcité elle est morte. Charles Consigny.
Non mais elle a 100% raison. Ça fait beaucoup de bien d'entendre ce discours réactionnaire qui serait taxé de réactionnaire dans la bouche d'une jeune fille contemporaine. Si vous voulez, c'est aujourd'hui. Qu'elle dit là, attention de le dire si vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans. Vous
savez. C'est pas ce que dit le Rassemblement National, et c'est pour ça qu'il est à 31% le Rassemblement National.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sinon, je veux dire, par la presse autorisée, vous serez tout de suite taxé d'être un odieux réactionnaire. Donc je trouve que c'est agréable à entendre, et je pense en effet, moi, que la France doit être beaucoup plus offensive, beaucoup plus dure, avec toutes les formes d'atteinte à la laïcité. C'est sûr, je pense que l'interdiction du voile à l'école, l'interdiction de l'abaya, tout ça, ça va dans le bon sens, et je pense qu'il faut aller plus loin là-dedans, dans cette voie, et vraiment affirmer le fait que on ne veut pas que les gens nous gonflent avec leur religion. Voilà, que ce soit dans l'entreprise, dans les espaces publics, dans les transports en commun, dans les écoles, dans les administrations, partout, la religion, c'est chez soi, et quand on est en dehors de chez soi, on ne fait pas chier le monde avec sa religion. Ouais. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin dans ce principe-là, et par ailleurs, même si on peut pas tout demander à l'école, au collège, etc., je crois que il me semble qu'il serait pas un luxe que les professeurs et les personnels des établissements scolaires aient quand même un rôle de vigie sur les dérapages intégristes religieux qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être repérés, si vous voulez, dans ces établissements scolaires. Je pense que ces deux gamins qui ont cru pouvoir casser la gueule de ce jeune homme qui parlait à leur sœur, il faut voir s'il n'y avait pas des signes avant-coureur, des raisons qui nous auraient permis de penser qu'il y avait un problème. Pareil pour cette Samara dont on a découvert après avec stupeur qu'en fait elle était harcelée depuis longtemps, qu'elle était le bouc émissaire,
que la mère avait téléphoné à l'établissement aussi,
qu'elle était le souffre-douleur. Elle était le souffre-douleur de son collège.
Les réseaux sociaux, c'est la clé. C'est la clé de toutes ces histoires, c'est les réseaux sociaux. Mila, c'est les réseaux sociaux. Samara et les autres, c'est les réseaux sociaux. Il y a aussi un problème
Samara,
de régulation des
à partir
réseaux sociaux,
du moment en fait. Où elle était.
Mais les réseaux sociaux, c'est le vecteur.
Non,
c'est
à partir du moment où
je suis désolé,
c'est l'idéologie qui tue.
Samara, à partir du moment où elle était de notoriété publique dans le collège, le souffre-douleur du collège, il aurait fallu que des sanctions.
Il y en a une. Elle a été renvoyée deux jours, la harceleuse. Oui. Oh là là, attention, attention, ça fait mal deux jours.
Il faut être beaucoup plus dur.
Bien sûr, fallait la virer définitivement. Et on lui dit, ton sursis, c'est que tu vas dans un autre collège de ton quartier, de ta ville. et si tu recommences une seule fois, tu dégages de collège et tu vas en centre éducatif fermé. Je peux vous dire, tu fais ça une fois, deux fois, tu vas pas le faire 50 fois. Parce que des gamins virés qui vont de collège en collège, qu'on accueille, on sait même pas d'ailleurs pour quel motif on les accueille, je l'ai déjà raconté ici, hein, des élèves qui sont virés pour des coups de couteau, des machins, toi tu l'accueilles, tu sais même pas pourquoi. Donc t'as un gamin dangereux dans ta classe, t'es même pas au courant. Moi, je suis désolée. Conseil de discipline, une fois déjà t'es viré, c'est pas genre je te mets une heure de un jour d'exclusion, deux jours d'exclusion. Un conseil de discipline, c'est suffisamment grave pour ne pas être un énième rappel à la loi comme on va te faire dans le bureau d'un juge. Maintenant, Mila, tu disais les réseaux sociaux. Mila, tout à l'heure, elle l'a dit et à juste titre parce que Apolline de Malherbe lui dit. Oui, mais le gouvernement propose d'interdire les portables, faire la coupure. Déjà, Madame Belloubet, elle n'est pas au courant qu'on n'a pas droit aux portables dans les établissements scolaires. Donc, bon, bref, veut juste qu'on les laisse à la porte.
Voilà, tu l'éteins, mais tu as le droit de le garder dans ton portable.
Ouais, il est déjà éteint, normalement. Donc, de quoi elle parle, Madame Belloubet ?
T'as vu la référence directement quand tu rentres dans le collège, quoi.
Oui, parce que nous, au Conseil des ministres, on le laisse à l'extérieur. Non, mais le Conseil des ministres avec un collège. On va dire, ces gens sont à côté de la plaque. Bref, ce qu'elle a dit, Mila, elle a dit non, c'est pas les réseaux sociaux en soi le problème. Les réseaux sociaux, c'est le moyen. Elle dit, c'est parce qu'on veut pas s'attaquer à la source, qu'on s'attaque aux moyens d'expression du problème. Les réseaux sociaux sont une chambre d'écho. C'est la chambre d'écho d'un message politique. Si on veut pas lutter contre le message politique, on pourra toujours fermer les haut-parleurs. Ça empêche pas le message de continuer à travailler les têtes, comme l'a dit Charles tout à l'heure.
Et c'est ça qui inquiète. Manu en Corse. Bonjour Manu.
Ouais, bonjour tout le monde.
Elle a raison, Mila, ce qu'elle dit?
Mais elle est magnifique, elle est brillante, c'est bravo, mais il faut la mettre en avant, cette gamine, elle est extraordinaire. Mais est-ce qu'on se rend compte deux secondes que non seulement le sacrifice, elle n'a pas sacrifié, je disais il y a deux secondes à personne au téléphone que j'ai eu pour vous appeler, elle n'a pas sacrifié à 30 ans sa vie, elle a sacrifié son adolescence. L'une des étapes les plus belles de la vie, quand on grandit, elle a sacrifié son adolescence pour dire ce qu'elle pensait. Et ce pays qui se dit laïque n'arrive pas à répondre à ça. Je veux dire, cette gamine, elle est brillante. Elle a dit ce qu'elle a dit, c'est extraordinaire. Nos hommes politiques n'ont pas l'once de courage par calcul. Politique de dire ce qu'elle a pu dire elle. Elle a parlé du cœur. On a perdu nos valeurs en France. C'est un pays qui a perdu ses valeurs. C'est ni plus ni moins que des valeurs. La valeur une, c'est la laïcité, le droit de s'exprimer, de pouvoir être écouté. Que ça plaise ou non. Aujourd'hui, quand on dit quelque chose, quand une gamine dit quelque chose comme ça, elle est menacée de mort. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays qui veut rayonner? Le pays des Lumières, ça c'est le pays des Lumières. Vous rigolez ou quoi? On est à la rue. C'est une honte. Moi, je suis politique aujourd'hui, je me cache. Vous vous rendez
Manu.
Nos hommes politiques, attendez, laissez-moi.
Non, je vous en prie, je vous en prie.
C'est que nos hommes politiques, ils ont reproduit exactement ce que font les parents de ces enfants. C'est-à-dire que pendant des années, ils n'ont pas fait le job. Et à la fin, il y a une catastrophe. Et là, on dit, il faut sanctionner. C'est comme si moi, en tant que père, je n'éduque pas mes enfants. Et arrivé à 18 ans, ils font une connerie. Et je leur gueule dessus, je leur mets des coups et je me dis ça va aller mieux. C'est quoi ça? C'est dramatique. Moi je suis homme politique aujourd'hui, mais qui se taise.
D'autant Manu, vous me corrigez si je me trompe, mes chers Gégé, mais au moment de l'affaire Mila, Madame Belloubet, qui était garde des Sceaux, si je me souviens bien, elle était un peu gênée aux entournures.
Vous avez même parce expliqué qu'on n'avait pas le droit de blasphémer. Voilà, la pauvre Madame Belloubet,
oui, mais Mila quand même, elle insulte une religion, donc c'est pas bien.
On a le droit de blasphémer dans ce pays. D'accord? Et qui plus est,
on a le droit d'être offusqué aussi.
Mais non seulement on a le droit de blasphémer. Blasphémer, ça veut dire tu critiques ta propre religion. C'est-à-dire, je suis catholique, j'insulte Jésus, je suis juive.
Ah non, tu vas pas insulter.
Je suis juive, j'insulte les prophètes.
Va des rétro-satanas.
Donc, ça, c'est le blasphème. Ouais. Mais quand tu n'es même pas musulman ou même pas chrétien, t'as le droit de critiquer et de te moquer d'une autre religion. Tu as le droit de te moquer d'une autre religion. Tu ne te moques pas, tu n'attaques pas les personnes, tu attaques la religion. Donc c'est même pas du blasphème là. Donc Madame Belloubet, en plus, elle comprend même pas. Mila n'est pas musulmane, elle a le droit de dire ce qu'elle veut sur l'islam. D'ailleurs, certains islamistes disent pique-pendre de notre société. Eux, ça va, ils peuvent parler, il y a pas de problème. D'accord, et ils seront jamais condamnés par les groupes LGBT machin truc qui pourtant se feraient jeter du haut d'un immeuble s'ils habitaient dans certains pays islamistes, d'accord, mais ils viennent te défendre les islamistes des frères ici. Donc c'est pour ça ces gens-là, ils ont les valeurs inversées, c'est tout
dans
écu par-dessus tête.
On entend
Manu, elle remet les choses en place et ça fait du bien.
Manu dire ça fait du bien.
Je veux vous dire une chose très importante. Corse. J'ai 51 ans, j'ai des amis qui viennent, je les connais depuis l'âge de 15 ans, ils viennent en Corse. Ils nous ont toujours dit, faites attention, c'est en train de partir en sucette chez nous. J'ai fait mon armée sur le continent, j'ai vu comment c'était, je suis remonté, j'ai vu comment ça s'est dégradé. C'est un pays qui part à la trappe. On se gargarise. Vous savez, la France, c'est un pays... C'est malheureux, hein, mais nos hommes politiques, on en fait un pays de mythos. On fait des lois, on interdit, mais on n'a pas les moyens de les appliquer. On se donne pas les moyens de les appliquer. Moi, quand j'entends ces interdictions à droite, à gauche, machin, ils sont où les moyens? Qu'est-ce qui est fait pour contrôler si tout va bien? Regardez ces écoles où il pleut dedans. Qui surveille ses enfants? Qui surveille ses parents? Qui surveille où va l'argent? Rien. C'est du vent. On fait des lois, on s'augmente à l'Assemblée, au Sénat, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Du vide. Ah, il y a du vide. Il y a des enfants qui vont à l'école et qui rentrent pas chez eux le soir. Mmh. C'est un truc de fou.
Et qui se font savater à mort, voilà. Effectivement. Manu, restez avec nous pour écouter Karim qui nous appelle de l'Aisne. Bonjour Karim.
Oui, bonjour les GG.
Technicien en centrale nucléaire, vous avez entendu le coup de gueule et le coup de cœur aussi, hein, parce que ça la rage de Mila ce matin. Qui déplore, qui pleure ce qui s'est passé pour Samara, pour Chemseddine. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Karim, quand elle dit la laïcité, elle est morte, on est en train de laisser faire?
Alors, d'un côté, je suis entièrement d'accord avec, hein, la laïcité, elle se perd, il n'y a pas que la laïcité qui se perd aujourd'hui. Il y a le respect qui se perd, il y a plein de choses qui se perdent aujourd'hui. On s'indigne sur ce qui s'est passé, notamment à Montpellier. Moi-même, je suis indigné de ce qui s'est passé, je ne conçois pas, c'est vraiment, c'est déplorable. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. C'est qu'en fait, quand il s'agit d'un musulman, on est tous là à insister, à marteler, à le musulman. Moi, je suis musulman, je suis pratiquant. Par exemple, je fais mon jeûne, je fais mes prières, je suis respectueux, j'aide mon prochain, sans problème. Maintenant, les frères musulmans, nous, en tant que musulmans, on les déteste. Ils prônent tout ce que nous, aide nos prochains. Moi, j'imagine une petite vieille à côté de chez moi. Tous les jours, elle est catholique. Tous les jours, je vais sonner à sa porte. Je vais lui demander si elle a besoin que je lui fasse les courses. J'aide mon prochain. Mais aujourd'hui, quand il s'agit des musulmans, on tape tout de suite et on insiste, en fait, dans les médias. On insiste à marteler que le musulman, il est méchant.
Vous confondez les musulmans et les islamistes, Karim. On parle pas des musulmans.
Je comprends ce que vous dites, mais les islamistes, qu'est-ce que c'est islamiste?
Mais l'islam,
quelle est la définition de l'islam? L'islam, c'est la paix. Un islamiste, pour moi, c'est pas... Là, on peut parler de terroriste, si vous voulez, mais un islamiste, c'est un mot inventé. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai appelé, moi, chez Apolline de Malherbe pour passer quand il s'est passé les atrocités du côté d'Israël. Pendant une semaine, on martelait. Aujourd'hui, qui parle de ce qui se passe en Palestine? Qui en parle? On n'en parle plus, c'est silence radio, en fait. C'est-à-dire que c'est deux poids, deux mesures, en fait. Et ce qui fait mal aujourd'hui à la jeunesse musulmane de France, c'est tout ça, c'est qu'en fait, quand il faut taper sur les musulmans, tout le monde écrit, tout le monde...
Mais personne, Karim, tape sur les musulmans, là, ce qui nous étonne...
Karim,
ce qui nous effraye, ce qui aujourd'hui nous fait du mal et vous fait du mal, c'est qu'on puisse battre à mort un jeune homme au nom de l'honneur parce qu'il discutait avec une jeune fille et qu'on puisse s'en prendre aussi à Samara simplement parce qu'elle s'émancipait. Le petit groupe qui le fait, il le fait en dévoyant votre religion. C'est eux que l'on pointe du doigt. C'est pas les musulmans. Personne, depuis le début de la discussion, personne n'a pointé les musulmans. On pointe des extrémistes, des fanatiques qui dévoient une religion, Karim.
Je vais vous dire, vous savez, j'ai grandi du côté de Sarcelles. J'ai passé toute ma jeunesse là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 20 ans. J'ai fait ma scolarité là-bas. Mais vous savez ce qui s'est passé à Montpellier? Mais ça existe depuis la nuit des temps. Vous savez, moi, je sortais du collège, il y avait des groupes du quartier d'à côté qui venaient devant le collège pour attendre les uns et les autres pour les tabasser. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on s'indigne parce que c'est... Mais je vous le jure, monsieur, appelez n'importe quel collège de Garges-lès-Gonesse, de Sarcelles, et vous vous dire la même chose. Je vous jure, moi, j'habitais un quartier qui s'appelle les Sablons. Tout le temps, on attendait des personnes de la secte ou autre pour dire « Ah, lui, c'est un mec de tel quartier, on l'attend à la sortie du collège. »
Ouais, mais là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Moi, les petites castagnes, les petites castagnes, les petites castagnes entre bandes, j'en ai connu moi aussi, hein, de quartier. Sauf que là, c'est pas des castagnes entre bandes. Là, il y a un fond. C'est le fond que l'on pointe du doigt aujourd'hui, mon cher Karim. C'est ce qui est dit derrière. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à une fille? Pourquoi est-ce qu'on la tabasse? Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à Hachem Seguin? Pourquoi est-ce que les grands frères viennent le voir en disant, tu parles pas à notre sœur? Karim, c'est ça le problème.
Moi, j'ai trois filles. Hein. J'ai trois filles et j'ai quatre sœurs. Est-ce que vous avez la réponse sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous savez peu ce qui vous est rapporté.
Ah oui, là, le procureur a fait parler. En ce qui concerne Hachem Seguin, le procureur a fait parler les jeunes hommes. Ouais, on sait ce qui s'est passé. Ils ne voulaient pas que leur sœur parle de sexe à 15 ans ou qu'elle parle avec un garçon ou qu'elle envisage une relation avec un autre garçon. Ça, oui, ils l'ont dit.
Et donc ça, c'est valable que dans la communauté musulmane. Il n'y a que dans la communauté
musulmane. Je suis prof, je peux vous dire que en règle générale, discours. Oui, hein, c'est plutôt chez les familles musulmanes, parce que je vais vous dire, même vous avez des familles qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Asie du Sud ou d'Asie du Sud-Est, vous n'avez pas ces problèmes-là, qui considèrent que la fille est un objet qui appartient à son père ou à ses frères. Je suis désolée, c'est un peu une problématique culturelle liée à une certaine culture islamique. Ça, je suis névrée, après ça peut vous déranger, mais c'est la réalité.
Hein. Vas-y Charles.
Non mais Karim, on peut suivre son discours sur la non-stigmatisation, mais il faut pas se voiler la face. On va quand même pas nous expliquer que c'est dans les familles catholiques de Versailles qu'on vient trouver les copains des jeunes filles devant les lycées ou les collèges pour leur casser la gueule. Il y a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement transparent. Il y a l'importation d'une culture étrangère sur le territoire français. Je veux dire, il faut arriver à voir ça comme ça. C'est tout simple.
Merci Karim, merci Manu d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin après la prise de parole de Milia il y a quelques minutes en direct sur RMC et BFM TV avec Apolline de Malherbe. Dans un instant, on s'en fout pas avec Anaïs Sainz. À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui un trio composé de Charles Consigny, avocat, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Nous sommes avec Barbara Lefebvre qui est professeure d'histoire géographie et c'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les habitants d'Avallon dans l'Yonne sonnaient ce matin. La maire de la commune est en garde à vue. Au moins 70 kilos de résine de cannabis, 1 kilo de cocaïne, 7000 euros en cash et une vingtaine de lingots d'or.
Combien ?
Ont été retrouvés au domicile de l'élu dans le cadre d'une opération PlaceNet XXL. C'était hier. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On ne s'en fout pas.
Bruno ?
Non, on ne s'en fout pas.
Barbara ?
On ne s'en fout pas.
Au total, 7 personnes, hein, dont la mère Jamila Absaoui et ses deux frères, ont été interpellées. Outre le domicile de l'élu, la mairie et une pharmacie ont aussi été perquisitionnées. Tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir si la mère était au courant de ce trafic ou pas, Charles.
J'ai vu qu'elle disait pour sa défense qu'elle était au courant de rien.
C'était dans une dépendance de sa maison, hein, que ça a été.
Une maison où elle habite pas. Hein. Ouais. La maison de son père, en fait, elle a acheté la maison pour son père.
Ouais.
Ah bon, en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas si elle est mêlée ou pas. Mais
Non, vas-y.
Non, mais on va voir. Moi, je trouve ça très intéressant. Si elle est au courant et si elle est complice, c'est formidable.
Elle est mère, préparatrice en pharmacie et conseillère régionale.
Putain, ouais. C'est très intéressant. Après, il est quand même possible, laissons-lui le bénéfice du doute et la présomption d'innocence. Il est possible qu'elle ne soit au courant de rien et que... opportunément, ces deux frères aient justement essayé de se servir un peu de ce qu'ils pensaient être le bouclier du statut de leur sœur pour faire ça. Néanmoins, si j'étais elle et qu'elle n'est vraiment pas au courant, elle aura des raisons d'en vouloir très durement à ses frères, puisqu'ils vont flinguer probablement pour toujours la carrière politique. Jusque-là, semble-t-il honorable de leur sœur.
C'est le frère connu pour affaire de stup qui était ciblé par cette opération XXL, parce que visiblement, dans la région, il avait son petit business qui tournait plutôt pas mal. Il avait dû dire.
Ça avait l'air de bien tourner.
Moi, je me suis dit, il a dû dire, sœurette, je peux déposer des affaires chez toi.
C'est là que la question se pose, tu veux.
Oui.
C'est-à-dire que moi, j'aurais un frère que je sais impliqué dans les stupes et il me dit, je peux avoir les clés de la maison de papa. Bon, alors peut-être qu'effectivement, ils avaient tous les clés, etc., etc. Elle, en tout cas, j'espère qu'elle va pouvoir prouver qu'elle n'a plus rien à voir avec ses frères et qu'elle ne les fréquentait plus. Personnellement, si j'étais élue de la République, je couperais les ponts avec mes frères qui sont impliqués dans les trafics de drogue, parce que je me dirais qu'un jour ou l'autre, ça va me retomber sur la tronche. Mais bon, voilà.
Bruno.
Bruno.
Moi, je rajouterais juste un truc, c'est que Avalon devient le Medellin français.
Ah, et tu ça dis Avalon, quoi.
Je veux dire, à un moment donné, c'est bien, quoi.
Tant qu'on n'a pas un certain Olivier T, entendu en tant que témoin assisté.
Ah, mais c'est un peu dans le coin.
Il est, puis il est dans le showbiz, hein, la cam dans le showbiz.
Les raccourcis vont être vite faits. Olivier, on pense à toi.
On pense à toi de plein de façons.
Les GG. Ils affirment avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. Des investigations sont en cours à Montferrand-le-Château dans le Doubs, où trois personnes disent avoir croisé un homme ressemblant à celui qui est recherché depuis 13 ans maintenant. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On s'en fout pas.
Bruno ?
Non, on s'en fout pas.
Barbara ?
Je crois que comme j'y connais pas grand-chose, je crois que je sais mes collègues.
Tu t'en fous.
C'était lors d'une veillée de prière le 9 mars dernier, au sein de la communauté des sœurs de Béthanie, où un dénommé Jean a raconté marcher sur les routes sans document d'identité. Et parmi les sept personnes qui étaient présentes, quatre pensent que ce Jean n'est pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès, mais les trois autres pensent que c'est possible que ce soit lui. Les gendarmes ont donc effectué des prélèvements sur une canette, dans laquelle a bu ce visiteur mystère.
Ah, bah alors on va vite savoir. Ah
bah alors, pourquoi on s'en fout pas, mon cher Charles ?
Non, mais je trouve cette histoire passionnante. Et je pense que c'est possible que ce soit Dupont de Ligonnès, puisque on sait
enfin, tu aimerais, c'est un vœu.
On sait qu'il était catholique intégriste. Il est courant pour les religieux de porter secours, y compris à des gens en cavale, ouais. Y compris à des
nazis.
À d'anciens nazis aussi.
À d'anciens nazis, souvent même.
Paul Touvier.
Ouais.
Oui, mais pardon de vous dire que moi, je trouve qu'il y a là-dedans une certaine noblesse. Oui, on n'est pas tous obligés d'être des délateurs, y compris des pires raclures.
Ça, c'est le chouan qui parle.
Libre à vous de... Et donc je pense ça m'intéresserait beaucoup de savoir si c'est effectivement lui, parce que ça voudrait dire qu'il n'est pas parti au fin fond du Botswana comme il faudrait qu'il le fasse à mon avis, plutôt que de rester dans le Doubs qui est quand même pas exactement la jungle amazonienne. Donc si c'est lui, c'est très intéressant. Moi j'adorerais qu'on le retrouve pour tout vous dire et qu'il s'explique sur ce qu'il a fait.
Bruno.
Moi, tout à l'heure, en regardant Louis Gerbier, je me suis demandé, à un moment donné, s'il n'y avait
pas Dupont.
Ouais. Avec Barbara, on s'est posé la même question. Tu vois, le problème, c'est que Dupont-Ligonnès, on va le voir partout, en fait. Parce que tu vois, c'est ce mythe-là.
En plus, depuis que sa sœur nous dit que les cadavres retrouvés sous la maison ne sont pas ceux des enfants.
Des extraterrestres.
Et qu'il a été exfiltré par la CIA.
Ils ont bien fait l'inviter partout, sa sœur. Voilà, sa sœur nous relance un peu le débat.
On va le voir partout, Xavier Dupont-Ligonnès.
J'adore sa sœur. J'ai un truc extraordinaire. C'est fou de croire à ça. Elle s'accroche à ça pour survivre à l'idée que son frère a tué.
Ouais, ou pour faire un bouquin aussi, pour faire des rondes peut-être un peu aussi.
Les GG. 6 mois après l'attaque du Hamas, les Français soutiennent toujours l'action israélienne à Gaza. Selon un sondage IFOP publié par la Tribune dimanche hier, 56% des sondés considèrent que l'objectif du gouvernement israélien d'éliminer donc le Hamas est justifié. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara ?
Non, on s'en fout pas.
Bruno.
Non, on s'en fout pas du tout.
Charles.
On s'en fout pas.
Barbara.
Non, on s'en fout pas parce que je pense que les Français ont compris ce que signifiait le 7 octobre. Je veux juste le dire en proportion à la population française. Les morts israéliens en 24 heures, si ça avait été en France, ça voudrait dire qu'en France, en 24 heures, on aurait tué 9600 personnes, dont 1600 enfants. Je rappelle que les attentats du 13 novembre, c'est 130 morts. Que les attentats
132.
De Nice, c'est 132 morts. Les attentats de Nice, c'est 86 morts. Donc on a été régler leur compte à l'État islamique qui se servait de la population de Mossoul et de Raqqa comme de boucliers humains. Il y a donc eu des civils qui, hélas, sont morts dans les frappes, mais qui ont permis de restreindre et de réduire les positions de l'État islamique. Donc je pense que la France, elle a réagi après les attentats. Après les massacres du 7 octobre, n'importe quel État avait la légitimité de répondre. Qu'ensuite, la population gazaoui serve de bouclier humain à des lâches et des barbares qui se cachent dans des tunnels qu'ils ont creusés avec l'argent du Qatar au lieu d'aider à développer leur population. Excusez-moi, la population qui est victime du Hamas, c'est aussi les gazaouis. Donc, je comprends que les 25 000 morts civils gazaouis soient quelque chose de très regrettable.
36 000, je crois que j'ai vu.
Non, ça, c'est parce que tu inclus, non, mais tu inclus les terroristes. Et en plus, c'est les chiffres du Hamas. Bah, parce que sur les 36 000 civils,
j'ai encore vu une émission hier soir. rapport sur la France 5, qui est quand même pas la chaîne du Hamas, qui disait 36 000.
Non, parce qu'ils intègrent, c'est les chiffres du Hamas. Je dis simplement que les Français comprennent et aimeraient peut-être aussi que, ils comprennent que on puisse légitimement vouloir aller chercher un par un ceux qui ont commis un des pires massacres antisémites du 21e siècle.
Barbara, tout le monde a été horrifié par les attaques du 7 octobre et tout le monde reconnaît le droit d'Israël à riposter, à faire la guerre au Hamas, à anéantir le Hamas, à tuer tous les membres du Hamas. Ça, il n'y a pas de débat. En revanche, tout le monde constate maintenant qu'en fait, la riposte israélienne, elle est foireuse, elle est disproportionnée, elle a tué beaucoup trop de civils, elle a eu beaucoup trop de dommages collatéraux, elle n'atteindra pas son objectif d'éradiquer le Hamas. Elle n'affaiblira même pas complètement le soutien de la population gazaoui et de la population palestinienne dans son ensemble au Hamas. Et que donc, en fait, cette opération, non seulement elle a eu pour effet de tuer des milliers d'enfants, ce qui est quand même pas tout à fait anodin, mais en plus, elle n'arrivera pas à ses fins. Donc, à mon sens, c'est un échec total de Netanyahou et du gouvernement israélien qui ont complètement foiré leur riposte aux attaques du 7 octobre et qui ont aujourd'hui du sang sur les mains. Je suis désolé, quand il s'agit d'enfants, ne trouve aucune légitimité.
Je soutiens pas Benjamin Netanyahou en l'occurrence. Juste te demander, le débarquement en Normandie, tu sais combien ça a fait de morts civiles?
Je pense que c'est pas comparable.
À cause des Américains. Bah, c'est 60 000 morts. 400 000 morts en Allemagne, rien que à cause des bombardements anglais pour libérer l'Allemagne. Donc, effectivement, dans les guerres, il y a effectivement, quand on prend les populations civiles en otage et comme bouclier, ça fait des dégâts, je sais.
On peut peut-être espérer qu'on progresse un tout petit peu.
Non, on progresse pas. La guerre, c'est la guerre, tu vois.
Ah, bah, c'est bien.
Barbara, Bruno.
Un raisonnement intelligent.
Les gens confondent physiquement tous les deux.
C'est vrai qu'on a un petit truc en commun.
Mais moi, j'entends ce que dit Barbara, mais par contre, moi, je vous dis, hier soir, j'ai une émission très intéressante qui expliquait quand même qu'en proportion, c'est 1 million de Gazaouis. Si c'était la population gazaouite et la population française, ça ferait 1 million de personnes tuées depuis le 7 octobre de ce côté-là.
Oui, mais pour l'instant, ça fait 1% de la population gazaouite.
Oui, mais on va pas faire un mort pour un. Moi, je trouve vraiment, et Charles a dit.
Ça fait 1% de la population gazaouite.
Oui, mais
aujourd'hui.
Avec Charles, c'est ce que Charles a dit. Là, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est vrai que. Et aujourd'hui, on voit bien que les Israéliens sont dans la rue contre leur gouvernement qui
il l'était déjà avant le 7 octobre.
Oui, voilà. Mais sauf que depuis le 7 octobre, ils étaient un peu dans une espèce de trêve. Mais là, maintenant, ils comprennent mieux ce que vient de Netanyahou. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, je vois plus d'intérêt en France et du gouvernement français sur les otages israéliens que Netanyahou lui-même qui bombarde à tout va et qui peut-être
en tout cas si le Hamas libérait les otages, la guerre s'arrêterait immédiatement, sauf que c'est pas l'intérêt du Hamas de libérer les otages, d'autant plus
ni Netanyahou, parce que le temps qu'il veut raser la bande de Gaza,
sauf au moins que c'est pas Netanyahou qui a la clé,
c'est pas non plus Netanyahou, Dieu sait si je ne le supporte pas, mais c'est pas lui qui a déclenché les hostilités.
Dernier mot, Anaïs.
Il est GG, si vous l'avez raté hier soir sur RMC Story, je vous conseille d'aller jeter un œil sur RMC BFM Play, un documentaire exceptionnel et inédit sur les 44 enfants d'Izieux, ce groupe d'enfants juifs réfugiés dans une maison transformée en colonie dans l'Ain. C'est disponible en replay à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle d'Izieux. Production RMC Story. Macron y était hier.
C'est pas mal d'ailleurs de revisiter l'histoire, de rouvrir un peu les livres au regard des événements qui se passent soit au Proche-Orient, soit en Europe en ce moment, puisqu'on va célébrer le 80e anniversaire du débarquement. Et ça commence aussi par tous les martyrs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, rouvrons un peu les livres, relisons un peu l'histoire. C'est bien de s'inspirer quand même du passé. Et Dieu sait qu'en ce moment, besoin de
rafraîchir notre culture. C'est important aussi parce que quand on connaît bien l'histoire et quand on entend par exemple Poutine parler aujourd'hui de la guerre patriotique, c'était ce que disait Staline.
Exactement.
Quand il traite les Ukrainiens de nazis, c'est parce que les Ukrainiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été les supplétifs nazis, notamment pour exterminer les Juifs. Donc, vraiment que les gens aient davantage de culture historique aussi pour décrypter la propagande actuelle.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, la taxe lapin de 5 euros si vous n'allez pas au rendez-vous chez le médecin, le brancardier roué de coups en Vendée parce que ça n'allait pas assez vite pour la prise en charge d'un patient. 32-16 pour le commenter avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.